Je n'aurais jamais cru que... Rencontre Normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest.
Bienvenue dans Je n'aurais jamais cru que, podcast by Tendance Ouest. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au destin particulier. Ces Normands qui ont une histoire à raconter. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la petite commune de Pont-Hébert, près de Saint-Lô dans la Manche. Notre nouvelle invitée se nomme Marguerite Le Carpentier. Cette dame de 87 ans avait 6 ans seulement quand un événement majeur de l'histoire se déroula sous ses yeux d'enfant. Marguerite Le Carpentier a survécu au bombardement du 6 juin 1944 de Saint-Lô, surnommée capitale des ruines. Si le temps file à une vitesse folle, le podcast est quant à lui un moyen de prendre le temps d'écouter, de découvrir, de s'intéresser à l'autre. Ouvrez grand les oreilles, ce podcast, je n'aurais jamais cru que, épisode 2, c'est parti. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre maison ici à Pont-Hébert.
C'est un plaisir.
Marguerite, les Normands connaissent l'histoire du débarquement de Normandie, événement majeur de la Seconde Guerre mondiale à travers les films, les livres d'histoire, les musées. Marguerite, vous êtes née le 5 février 1938 à Saint-Lô. Vous aviez donc 6 ans quand ce jour est arrivé. Avant de parler du 6 juin 1944, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, Marguerite. Où habitiez-vous à cette époque et que faisaient vos parents dans la vie ?
Alors, maman ne travaillait pas, mon père était maçon et j'étais la cinquième enfant, donc une fratrie avec des âges, avec des différences d'âge, puisque mon frère aîné avait 14 ans quand je suis née et les trois autres se suivaient à un an près. Donc voilà. Et nous habitions un rue des Banques, et la rue des Banques est moins connue que la rue du Ménicrot. Et nous étions locataires de l'entreprise de menuiserie La Fraternelle. Toute mon enfance s'est passée là.
Aujourd'hui, la ville ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était. Quel regard portez-vous sur la ville de Saint-Lô avant le bombardement, Marguerite ? Avez-vous des souvenirs des rues, de votre maison ?
Oui, tout à fait, parce que compte tenu de mon âge et que mes frères et sœurs étaient plus grands et déjà dans la vie active, je suivais maman partout et on allait au marché, place Gambetta, autour de la cathédrale, je vais peut-être pas dire tous les jours, mais comme on n'avait pas de glacière ni de frigo, on faisait les courses régulièrement. Et j'ai beaucoup de souvenirs de ce Saint-Lô d'avant la guerre, particulièrement les petites rues qui montaient vers la cathédrale.
Est-ce que c'était beau ?
Oh oui, mais peut-être qu'à cette époque-là, je ne l'appréciais pas. Mais j'ai la nostalgie de ces lieux-là parce que j'aurais souhaité que le centre-ville soit reconstruit autour de la cathédrale. Mon mari me dit toujours oui, mais il fallait faire vite, etc. Oui, mais je regrette qu'on y ait mis les administrations. J'aime beaucoup d'ailleurs chez nous, il y a des vues de Saint-Lô avant la guerre. J'aimais beaucoup ces petites ruelles.
Marguerite, est-ce que vous avez des souvenirs de votre école, de vos camarades ?
Oui, j'ai le souvenir. J'ai un souvenir de la maternelle. J'allais à l'école Jean Dubois, là où maintenant il y a la mission pour l'emploi.
Mission locale ?
La mission locale. C'était là, mon école. Et j'ai un souvenir que j'ai pleuré pour aller à l'école maternelle. Quand maman m'a laissé, j'ai le souvenir là. Alors, je devais avoir 3 ans, je suppose. Mes premiers souvenirs remontent à mes trois ans. Un souvenir personnel, la mort de mon grand-père maternel. Et puis après, mon dernier souvenir, c'est ben, la classe le jour du 6 juin. Il y a eu classe le matin et pas l'après-midi. Et je savais lire parce que mon souvenir, c'est que quand maman m'emmenait faire des courses, je lui tirais le bras pour aller lire les pancartes qui étaient écrites en allemand. Je voulais lire les pancartes et maman ne me laissait pas faire. D'abord, j'aurais pas pu les lire, mais je savais lire. Et l'après-midi, cet après-midi-là, j'ai joué, comme je le faisais souvent, chez une amie... Ils avaient la chance d'avoir un grand jardin. Et elle avait 2 ans de plus que moi, cette amie, et on était toujours ensemble.
Comment avez-vous su, Marguerite, que le débarquement arrivait ?
Ce que je sais, c'est que mon frère aîné, qui travaillait aux établissements Le Couffle, lequel M. Le Couffle faisait partie de la défense passive, M. Le Couffle a envoyé mon frère nous prévenir qu'il fallait partir.
Vous sentiez qu'il se passait quelque chose à ce moment-là?
Oui, il me semble que le temps était orageux et qu'il y avait c'était lourd. L'après-midi dans le jardin où on a joué, c'était lourd. Et puis, donc mon frère est venu en fin de journée. Monsieur Lecouf lui a dit, va prévenir tes parents, tes voisins, qu'il faut qu'ils partent, absolument. Il ne faut pas rester là. Et tu viens nous retrouver, si tu veux, tu viens nous retrouver parce qu'on va avoir besoin d'aide. Donc, ils avaient des informations. Papa ne voulait absolument pas partir. Et bon, finalement, mon frère a beaucoup insisté et on a fini par partir. On a laissé tout en plan parce que on allait manger. La soupe était, les assiettes étaient sur la table pour souper. Et on est parti un peu en catastrophe. Et on est allé avec des voisins, des amis. On ne s'est d'ailleurs pas quitté du tout pendant toute cette période-là. On est allé se réfugier dans les hauteurs de la Roquette. Et puis, on a passé la première nuit dans les chemins. Et le lendemain, on a trouvé cette bergerie qui était inoccupée. Et là, ben, les adultes ont décidé de s'installer là.
Marguerite, en tant qu'enfant, est-ce que vous avez eu peur à ce moment-là?
J'étais terrorisée par la période qui a précédé le 6 juin, terrorisée par le bruit des avions. Et maman me couchait avec mon père qui se couchait très tôt le soir. Elle me couchait dans le lit avec lui parce que je hurlais tellement j'étais terrorisée.
On en parlait facilement à la maison de cette période d'occupation?
Non, en tout cas pas avec moi. Même encore maintenant, les avions à basse altitude, je supporte pas bien. Les sirènes, je supporte pas bien. Bien que je dise que j'ai pas de traumatisme, mais... Ça, j'aime pas. Ça, c'est resté en moi.
Je n'aurais jamais cru que... Rencontre normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest. Sincérité, partage, confidence, un podcast by Tendance Ouest.
Et cette nuit du 6 juin, vous avez des souvenirs?
La nuit du 6 juin, on l'a passé là dans ces chemins. Et puis après, donc on s'est... Alors, la vie dans cette cabane à moutons... À côté d'un champ, là, c'était quand même, devait être certainement très compliqué. Mes sœurs m'ont raconté qu'elles avaient eu faim. Parce que comment on s'approvisionnait, ça, mystère pour moi.
Bien sûr.
Comment on faisait la cuisine. Je sais qu'on allait de temps en temps, on redescendait chez nous après le bombardement. On a pu redescendre de temps en temps. Il y avait une épicerie dans le quartier qui était ouverte à tous les vents et on s'est servi de provisions. Un ami de mon père tenait les entrepôts frigorifiques, qui étaient aussi dans le prolongement là, de la menuiserie La Fraternelle. Et il est parti, peut-être en Ouestéo, je ne sais pas, mais en tout cas, il est parti et il lui avait laissé la clé. Alors, comment on cuisinait et tout ça? On cuisinait pas à la maison, hein, qu'on descendait vraiment pour prendre des affaires. Il y avait une ferme et maman, il avait son linge. Et donc, je pense qu'il nous vendait ou donnait des œufs ou quelque chose. Mais... Je me suis toujours demandé comment on pouvait
subvenir à vos besoins.
On avait pu jusqu'au 3 juillet rester là.
Et dans ce bombardement du 6 juin 44, est-ce que c'est à ce moment-là que votre frère aîné, un homme courageux, est décédé?
Ben oui, parce que mon frère, le 6 juin, donc, est reparti chez Monsieur Lecouf et ils se sont retrouvés à les rues du Neubourg où il y avait la gendarmerie. Et là, ils ont commencé à déblayer. C'était le premier bombardement. Ils ont commencé à déblayer. Et une dame, une femme de gendarme, en pleurs et en pleine crise de nerfs, paraît-il, disait, ma fille est sous les décombres. Et elle avait vu la main, elle avait reconnu la bague, et c'était sa fille. Donc, ils ont mon frère et un monsieur de la défense passive qui s'appelait Monsieur Roiseau, qui travaillait à l'EDF, se sont mis à creuser, à déblayer. Et au moment où il a metté sur le brancard, il y a eu le deuxième bombardement et ils sont morts là tous les trois. Tous les trois. Cette petite fille avait 14 ans.
Comment vous avez appris son décès, vous, Marguerite, à votre frère?
Je ne sais pas. Mon père, je pense qu'on ne m'a rien dit. Et ma maman n'était pas au courant non plus parce que mon père a été appelé pour identifier... Et il a reconnu mon frère à ses chaussures qui étaient neuves. Donc, ce qui s'en est suivi, c'est que mes sœurs pleuraient tout le temps, que maman les disputait parce qu'elle n'était pas au courant pourquoi elle pleurait, que c'était assez compliqué comme ça et que fallait peut-être qu'elle soit grande. Et donc mon père a dû finir par le dire à maman, voilà. Et puis Monsieur Roiseau et lui ont été inhumés provisoirement dans la cour d'un garage
à Saint-Lô,
rue du Docteur Le Turc. À côté de la rue d'Agobert. Là, il y avait un garage qui s'appelait le garage Amont. Et ils ont été là. Parce que quand on est rentré d'Exode, c'est la première chose qu'on a fait. Et c'est ça mon souvenir, d'avoir vu ces deux tombes dans la cour du garage.
Je n'aurais jamais cru que... Par Rodolphe Delacroix. Rencontre normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest.
À partir du 3 juillet, votre famille décide de partir.
Oui,
à ce moment-là,
on nous oblige à partir.
On vous oblige.
J'ai entendu dire aussi que les Allemands voulaient plus de civils dans Saint-Lô. Il n'en restait plus beaucoup, mais ils ne voulaient plus. Donc, je pense qu'on est, si on est resté aussi longtemps, c'est parce qu'on devait penser que Saint-Lô serait libéré plus vite, certainement.
Bien sûr. Et là, un long chemin vous attend pour
oui,
une enfant.
Un long chemin, oui. Et donc, on est parti, la fameuse rue de l'Exode, hein, bien connue à Saint-Lô, donc Tessie. Donc, j'ai refait un peu le périple. Alors, les souvenirs que j'ai, par exemple, chez Rancé-le-Roussel, on s'est arrêté là et je revois très bien la situation. Il y avait une maison au fond d'un jardin, une dame qui me semble était très âgée à sa fenêtre, et à l'entrée de son jardin, il y avait un puits qui était cadenassé. Et les adultes ont demandé de l'eau. Et là-bas, elle avait peut-être peur. Je pense qu'avec le recul, on dit qu'elle avait peut-être peur toute seule dans cette maison. On est parti à trois charrettes quand même. Et les adultes ont cassé le cadenas pour prendre de l'eau.
Là, vous avez cette image.
Parfaitement ça en mémoire. Puis après, on a dormi aussi. Quelqu'un a dit que la forêt de Saint-Sever était en feu. Et puis, on a fait une étape à Barenton. Je me souviens très bien de cette étape à Barenton. Parce que, est-ce que la porte était ouverte ou pas ouverte? Mais on a dormi dans une maison. Et la ville avait l'air complètement abandonnée. Et puis après, on s'est retrouvé à Saint-Cyr-du-Bailleul. La municipalité a dû tirer ça, a dû nous accueillir et organiser ça. Parce que nos amis, l'autre famille, on était trois familles. Et les deux autres familles, une était au Tailleul et l'autre était je ne sais pas trop où. Et les paysans qui nous ont accueillis nous ont donné une toute petite maison qui était en surplomb d'un champ. Et moi, j'y étais, mes parents et mon frère qui avait 16 ans. Et donc, nous, on vivait là. Et puis, mes deux sœurs dormaient dans la ferme et étaient avec nous dans la journée. Alors, pour moi, cette période-là était une période de vacances. Avec mon frère de 16 ans, on gardait les chèvres.
C'est ce que j'allais vous demander. Comment on s'occupe à ce moment-là, quand on est une petite fille de 6 ans?
Moi, j'étais toujours soit derrière maman ou soit avec... parce que mon père, ma mère aidaient à la ferme, naturellement. Mon frère et moi, on a s'occupé des chèvres. Et c'était très sympa parce que c'était l'époque des cerises. Il y avait des cerisiers. Mon frère était toujours grimpé dans
les cerisiers.
Et alors, vu les privations qu'on devait avoir, c'était formidable pour nous. Et la fermière faisait du pain une fois par semaine. Et j'y allais, elle me donnait des petits morceaux de pâte, et puis ça c'est mon souvenir très sympa. Puis il y a eu les moissons, les parents aidaient à faire les moissons, voilà.
Vous êtes fait des amis là-bas?
Et j'ai pas le souvenir que les fermiers avaient des enfants. En tout cas, j'ai aucun souvenir. Par contre, quand on est allé une ou deux fois au Tailleul, où était l'autre famille. Et là, j'ai le souvenir d'une fille qui avait à peu près notre âge. Je la revois assez bien physiquement. Et c'est tout.
Et puis arrive le jour où, pour la première fois, je crois, vous rencontrez des Américains.
Oui. Ils arrivent à Mortain et s'organisent une balade dans la charrette du paysan. Et on s'en va tous applaudir, les Américains. J'en vois bien cette rue principale de Mortain où les drapeaux claquent et tout le monde applaudit.
C'était la fête?
C'était la fête. Ouais. Mais elle n'a pas duré longtemps apparemment, puisque y a eu cette contre-offensive. Et j'ai découvert récemment que la 35e division, elle s'était aussi installée dans un champ des paysans qui nous hébergeaient. Et Ils étaient là, ils avaient l'air inoccupés, etc. Et ils venaient beaucoup nous voir. Je me souviens d'avoir chahuté avec un Américain qui était roux. Mais ce n'était pas pour moi qu'ils venaient, c'était pour mes deux sœurs de 17 et 18 ans.
C'était un peu plus âgé.
Ils étaient très assidus. Et le problème, qui n'était pas seulement celui de nos paysans à nous, c'est que dans les fermes, tout le monde leur donnait du calva. Et maman m'a raconté que un général, enfin les commandants, étaient passés dans les fermes en disant « Si vous continuez à leur donner du calva, vous allez être fusillés parce qu'ils ne seraient pas capables de se battre. » Et là, on a dormi, on est retourné dormir dans les chemins 2 ou 3 nuits.
Combien de temps vous êtes resté sur place à Saint-Cyr-de-Bailleul?
Moi, je le situe qu'on a dû rentrer vers combien de temps on a mis déjà pour y arriver, je ne sais pas. Mais... je le situe qu'on a dû rentrer entre le 20 et le 25 août, je ne sais même pas comment. Ma première image de Saint-Lô, c'est même plus tous les gravats, d'ailleurs on les avait vus en partant, les gravats. Bien sûr. C'est ces deux tombes dans le garage. De M. Hamon.
Bien sûr.
C'est ça,
votre image principale que vous avez du retour à Saint-Lô.
Et puis, on a repris l'école en septembre, je ne sais pas si c'est fin septembre ou octobre, mais on a repris l'école et nous, on était dans le vieux lycée. Oui, le lycée Le Verrier. C'était une petite chapelle et puis des classes. Et moi, je me suis retrouvée, j'ai des photos de classe d'ailleurs qui l'attestent, je me dis, me suis retrouvée à 7 ans avec des grands qui étaient du certificat d'études, des grands de 14 ans. Quoi.
Est-ce que vous aviez revu votre maison? Est-ce que vous étiez retournée dans votre maison?
Oui, parce que elle a été abîmée par un obus. Et c'est une chance d'ailleurs qu'on soit parti. Merci à mon frère d'avoir tant insisté pour qu'on parte, parce que là où l'obus, il est tombé de l'armoire de la chambre de mes parents, juste sur la table de la salle à manger, enfin, qui était notre salle commune. Donc, heureusement qu'on est parti. Ouais.
Est-ce qu'en revenant à Saint-Lô, vous avez pu retrouver vos amis de l'école?
Oui.
Oui.
Ah oui, oui, j'ai une photo d'école, j'ai mes amis, la vie a repris son cours. Et je me souviens qu'en 1948, on a organisé la première fête du quartier. Tous les prisonniers étaient rentrés et c'était très douloureux pour maman, parce que maman disait si mon fils était parti prisonnier, il serait rentré, aujourd'hui il serait là.
Je n'aurais jamais cru que... Par Rodolphe Delacroix. Rencontre normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest.
Comment vous avez vécu, Marguerite, jusqu'au 8 mai 45, date de fin de la guerre? Est-ce que vous vous en rappelez?
Je me souviens qu'on est allé à... Je me souviens qu'on est allé à une manifestation qu'il y avait autour de la cathédrale, d'ailleurs. Ça devait être devant la cathédrale. Mais bon, sans plus, hein.
Comment avez-vous ensuite grandi, Marguerite, votre adolescence, votre vie de jeune adulte?
Moi, je me suis réfugiée dans la lecture. Ma mère aimait beaucoup les livres, elle aimait d'ailleurs, je suis même allée au théâtre avec elle, et mon frère aîné, en 44, elle aimait sortir. Elle m'emmenait partout avec elle, et m'avait inscrite à une petite revue qui s'appelait Lisette, petite revue pour les enfants. Et dès que j'ai pu, je suis allée à la bibliothèque à Saint-Lô. Mais j'ai beaucoup lu. J'ai repris l'école Jules Ferry de l'établissement vétuste du vieux lycée. On est allé à Jules Ferry. Et puis j'ai préparé l'examen d'entrée en 6e. Parce que j'étais en avance. Et ça me ramène à mon frère aîné, qui paraît-il, j'ai des livres de prix qui lui appartiennent. Comme c'était mon parrain, maman me les a donnés. Et ces livres de prix, le directeur de l'école était venu voir mes parents en disant qu'il faudrait qu'il aille à l'école normale supérieure. Et maman dit, mais non, c'est pas possible, c'est l'aîné, j'ai 5 enfants, moi je peux pas. Je peux pas, faut qu'il aille travailler, quoi. Et le cas s'est produit pour moi. Quand t'es arrivé, j'étais dans la classe du certificat d'études, dans la petite division, j'avais donc 11 ans. Et l'institutrice, à qui je dois beaucoup, a demandé à maman de venir et j'ai encore le souvenir de la réaction de maman parce que elle a dit écoutez, il faudrait qu'elle passe l'examen d'entrée en 6e. On était 3 à l'époque à passer l'examen d'entrée en 6e. T'es la seule fille d'ouvrier d'ailleurs. Elle a dit faudrait qu'elle passe l'examen d'entrée en sixième, je ne vais pas la garder là jusqu'à l'âge du certificat d'études. Et maman l'a dit, oui, pas de problème.
Elle voulait, à ce moment-là.
Et après, je me suis dit, peut-être qu'elle a culpabilisé.
Avec votre frère ?
Parce qu'en disant, il aurait eu un autre destin s'il avait été à l'école normale supérieure. Donc, je dois peut-être ça aussi à mon frère.
On dit généralement qu'on ne parlait que très peu de la guerre. Dans votre famille, était-ce le cas aussi ?
Ah oui, absolument. Moi, j'ai aucun souvenir d'en avoir parlé avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Donc, c'est vous dire franchement que tout le monde a voulu tourner la page. Et ça, je le regrette. Mais bon, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Hein.
Et la guerre finie. Qu'êtes-vous devenue, Marguerite ? Il y a eu cette belle rencontre avec votre mari, Léon, votre mariage, vos enfants après.
Et puis nos enfants, voilà. Et puis qu'on menait leur chemin, qu'on fait des études. Et puis qu'on fait leur vie aussi, voilà.
Est-ce que vous en parlez avec eux de cette période ?
Ah oui, ben oui. Et d'ailleurs, justement, nos petits-enfants, on les a emmenés sur les plages du débarquement. On leur a montré... Et d'ailleurs, ils sont très investis, d'autant plus que, surtout les deux, même les trois, oui, parce que même notre petit-fils, le fils de notre fils, et notre fille et garçon, toutes les cérémonies avec les vétérans, ça se terminait toujours par une grande fête ici.
À la maison.
Et tout le monde était là, naturellement. Oui, oui. Et d'ailleurs, notre petit-fils aîné, là, qui a 34 ans aujourd'hui, il était à une de ces fêtes et il demande l'autorisation de manquer l'école. Son professeur principal lui dit « D'accord, mais tu nous ramènes une interview du vétéran. » Et il lui demande « Mais il menait un train d'enfer pendant les cérémonies, les vétérans. Hein. » Donc il dit à mon petit-fils « Écoute, je suis fatigué, pas aujourd'hui, mais demain, si tu veux, je vais avec toi dans ta classe. » À Beaumont-Hague. Il n'avait jamais vu de vétéran à Beaumont-Hague. Incroyable. Donc, nous voilà partis le lendemain dans la classe de notre petit-fils qui était en cinquième. Une journée incroyable.
Extraordinaire.
Incroyable parce que tout le collège était dans la cour pour les accueillir, donc le vétéran et sa femme. Et puis...
Et toute votre vie, Marguerite, vous êtes restée habitée à Saint-Lô ?
Oui. Oui, parce qu'on a fait... On a eu des parcours l'un et l'autre différents. Et moi, mon mari a fini ses quatre dernières années à l'URSSAF de Caen. Et moi, en 85, j'étais licenciée, comme beaucoup de gens, tout le siège ici, licenciée économique. Et donc, j'ai retrouvé du travail dans une association qui s'appelle la GFOS, parce que les 10 dernières années de ma vie professionnelle ici, je me suis occupée de la formation permanente pour les salariés. Et donc, en 85, j'ai retrouvé un poste de conseiller en formation au niveau des PME, auprès des PME, qui m'a amené à Caen. Mais on a gardé notre maison ici. Et donc, j'ai fini ma carrière comme ça.
Et lors du 80e anniversaire du débarquement, Marguerite, un hommage a été rendu aux victimes civiles par le président de la République, Emmanuel Macron, dans la cour du Haras de Saint-Lô. Et vous y étiez ?
J'y étais. Et je dois dire que... Bon, moi, je regrettais toujours qu'on ne parle pas assez des victimes civiles. Et je fais partie du bureau de Saint-Lô-Grenouc, Janine Véroff, que vous devez connaître, dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Quel projet on pourrait mettre en place pour le 80e ? Moi, je dis, écoute, pour les vétérans, les vétérans, on fait déjà beaucoup pour eux. Moi, j'aimerais bien qu'on parle des victimes civiles un peu. On ne savait pas qu'il allait y avoir un hommage national à l'époque quand on a parlé de ça. Donc moi, j'ai dit, voilà. Et elle a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les victimes civiles ? Et l'idée a germé qu'on pourrait planter des arbres. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais on est allé le Bois Jugant, la mairie nous a donné, ça n'a pas été simple, mais on a eu un local. Et donc, pas un local, mais un terrain. Et puis, avec Janine, du coup, je me suis trouvée impliquée avec Janine, puisque l'idée venait un petit peu de moi et que je l'ai accompagnée pour toutes les réunions. J'étais peut-être pas très objective, forcément, je pensais à mon frère, mais aussi, parce que ça, j'ai tenu à ce que ce soit comme ça, l'arbre que j'ai acheté, qu'on a acheté pour les victimes civiles, j'ai voulu qu'il soit associé la jeune fille dont on n'a pas retrouvé la famille, la jeune fille, et M. Roiseau, qui on n'a pas retrouvé la famille non plus. Donc, ils sont tous les trois inscrits sur notre arbre, parce qu'ils sont morts ensemble, et j'ai pas voulu que... J'aurais pu acheter trois arbres, mais j'ai voulu qu'ils soient ensemble.
Et dans ces commémorations, il y a des rencontres. Il y a d'ailleurs une femme dont j'aimerais parler maintenant. Elle s'appelle Tiffaine. Elle habite à Niot, tout près de Saint-Lô. Et c'est grâce à elle que nos chemins se croisent aujourd'hui, Marguerite. Il y a une histoire particulière avec cette jeune maman normande. Comment vous, vous l'avez rencontrée ?
Eh bien, justement, parce que, à l'occasion de la plantation de ces arbres-là, sa famille est... six membres de sa famille sont décédés à Saint-Lô sous bombardement. Et donc, elle a participé. La première fois qu'on a planté trois arbres, elle a participé. Et surtout, on s'est rencontrés le 6 juin parce qu'on m'a demandé, avec elle et un autre monsieur, de déposer la gerbe pour les victimes civiles. Monument du 6 juin. Et alors, elle était très émue, moi aussi. Je l'ai consolée, je l'ai prise par-dessus le cou, je l'ai consolée, on s'est tout de suite tutoyée. Et...
Il y a eu un certain coup de foudre entre vous deux ?
Oui, absolument. Puis tout d'un coup, alors moi, je la voyais pas ado, mais enfin très jeune, puis tout d'un coup, je vois trois petits gamins qui lui sautent au cou autour d'elle. Je dis, mais c'est pas vrai, mais elle a trois enfants, Tiffaine. Et puis voilà, et puis bon, on s'est croisés aussi. On doit toujours prendre un café ensemble, ils doivent toujours venir là, mais ils sont pas mal occupés. Hein.
Marguerite, si on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en France, est-ce que vous éprouvez de la colère quand vous écoutez les informations d'aujourd'hui ?
Ben, c'est devenu très difficile. Parce que ce soit le problème de Gaza, que ce soit l'Ukraine, et que ce soit aussi ce qui s'est passé en Iran, etc. Moi, je suis effrayée, et c'est vrai que j'ai peur d'une troisième guerre mondiale, alors que je suis plutôt d'un naturel optimiste. J'ai peur et je supporte plus de voir tous ces enfants qui meurent de faim. C'est insupportable. J'ai du mal maintenant à chaque fois, je dis, oh non, c'est pas possible. Mais ils sont fous. Comment est-ce qu'on peut... Quand je pense que j'ai été, au cours de mes études, une grande admiratrice de Napoléon, j'ai lu des bouquins sur Napoléon. Enfin, j'étais admiratrice de Napoléon. Je me dis, mais comment j'ai pu être admiratrice d'un type qui a fait des guerres pour conquérir et tout ça, et que là, quand je vois tout ce qui se passe, je dis, mais c'est pas possible. Parce qu'on commence par se tuer, puis après on discute, mais commençons par discuter. Franchement, en ce moment, oui, j'ai très peur.
Alors, nous sommes au lendemain du 14 juillet, du défilé militaire de Paris. Emmanuel Macron a annoncé aussi vouloir augmenter le budget de la défense. Quel message souhaiteriez-vous passer aux grands de ce monde ? Quel regard vous portez sur cette actualité internationale ?
Quelquefois, oui, je suis en colère. Il y a tellement de choses à faire, parce que, surtout quand on a vécu, ne serait-ce que la guerre 39-45, deuxième guerre mondiale, j'ai dit, on n'a pas tiré les leçons, on est prêt à recommencer. Tout ça pourquoi ? Je suis en colère après tous ces... Mais ils n'ont pas autre chose à faire que de tuer les gens.
Et ce travail de mémoire, Marguerite, accepter de parler encore aujourd'hui, pourquoi est-ce important pour vous ?
Eh bien, justement, parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez été interrogative quand j'avais été ado, et même adulte. On a eu notre vie à mener, élever nos enfants, notre travail. L'un comme l'autre, on a travaillé pour améliorer nos situations respectives. Et donc, je me dis, mais... Peut-être que plus on informera les jeunes, moins peut-être il y aura de tentatives de se battre avec des armes.
Merci beaucoup Marguerite de nous avoir partagé votre histoire, vos souvenirs, les images d'une enfant de 6 ans qui a survécu au bombardement du 6 juin 44 à Saint-Lô. Ce podcast s'intitule « Je n'aurais jamais cru que ». Et dans chaque épisode, Marguerite, je demande à mon invité de terminer cette phrase. Je n'aurais jamais cru que si. Si vous pouviez terminer cette phrase, ce serait quoi ?
Eh bien, j'aurais jamais cru que les hommes soient assez bêtes pour continuer à tuer d'autres hommes.
Merci beaucoup Marguerite, merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous aujourd'hui.
C'était un plaisir.
C'est la fin de votre podcast, je n'aurais jamais cru que. Je dédie cet épisode à tous les hommes et toutes ces femmes qui, de près ou de loin, ont combattu la liberté au péril de leur vie et à toutes les vies touchées par l'horreur de la guerre. C'était Rodolphe Delacroix, je reviens très vite avec un nouvel invité, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. À très bientôt.
Je n'aurais jamais cru que... Par Rodolphe Delacroix. Rencontre normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest.